Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La puissance du serpent est la traduction française d'un ouvrage majeur publié sous le nom d'Arthur Avalon, pseudonyme de John Woodruff, juriste britannique et indianiste actif au début du XXe siècle. Paru chez Derwy dans cette édition de 2012, le livre aborde le tantrisme hindou à partir de ses textes, de son vocabulaire et de ses catégories doctrinales, plutôt qu'à travers les images sensationnalistes souvent associées au mot tantra. Son centre de gravité est la Kundalini, puissance divine représentée comme l'ovée à la base du corps subtil, ainsi que son ascension à travers les centres appelés chakras. L'ouvrage a une visée à la fois documentaire, interprétative et corrective. Il cherche à rendre intelligible une tradition rituelle et métaphysique exigeante, fondée sur l'unité de Shiva et de Shakti. Ce n'est ni un manuel de développement personnel, ni une invitation à pratiquer seul, mais une porte d'entrée savante et historiquement influente vers certaines sources du shaktisme tantrique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, réhabiliter le tantrisme contre les réductions occidentales. L'un des enjeux déterminants du livre consiste à contester les lectures occidentales qui réduisent le tantrisme à l'érotisme, à la magie spectaculaire ou à des pratiques jugées marginales. Avalon soutient que ces représentations proviennent fréquemment de témoignages indirects, de cas isolés ou de formes dégradées détachées de leur cadre doctrinal. Son approche replace au premier plan la dimension religieuse et philosophique des tantras hindous. Le tantrisme y apparaît comme une voie structurée, avec des textes, des rites, des mantras, une cosmologie et des conditions de transmission. Cette correction n'implique pas que toutes les traditions tantriques soient identiques ni que leurs pratiques puissent être simplifiées. Elle rappelle plutôt qu'un phénomène religieux ne se comprend pas par ses aspects les plus visibles ou les plus controversés. Pour le lecteur contemporain, cette perspective a une portée méthodologique. Elle oblige à distinguer l'étude des sources, les interprétations coloniales, les appropriations modernes et les usages commerciaux du terme tantra. Le livre demeure marqué par son époque et par son projet de défense du tantrisme. Mais il a contribué à faire reconnaître la nécessité d'une lecture plus rigoureuse de cette tradition. Sa valeur tient donc aussi à cette exigence de contexte, essentielle dès que l'on aborde des enseignements réservés et fortement codifiés. Deuxièmement, la Kundalini comme puissance cosmique et principe intérieur, la figure du serpent désigne la Kundalini, terme qui renvoie à une puissance enroulée ou lovée. Dans le cadre présenté par Avalon, elle ne doit pas être comprise comme une simple énergie psychologique, ni comme une sensation corporelle recherchée pour elle-même. Elle est Shakti, la puissance divine qui rend possible la manifestation du monde et qui réside aussi dans l'être humain. Le corps subtil devient ainsi un lieu de correspondance entre le cosmos et la conscience individuelle. La montée de la Kundalini vers le sommet du corps symbolise et décrit un processus de retour vers l'union avec Shiva, principe de conscience immobile. Cette doctrine articule donc une théologie de la déesse, une vision du corps et une théorie de la délivrance. Sa cohérence dépend de catégories indiennes précises, notamment Shakti, Shiva, Mantra, Nadi et Chakra. Les traduire trop rapidement par énergie, corps ou éveil peut faire perdre leur fonction religieuse. Le livre est utile parce qu'il insiste sur cette architecture conceptuelle. La Kundalini n'est pas un objet autonome, mais un élément d'un système ou création. Connaissance et libération sont liées. Cette précision explique pourquoi le thème a exercé une influence durable, tout en étant si souvent déformé dans les réinterprétations ésotériques occidentales. Troisièmement, les chakras et les canaux subtils dans une cartographie initiatique. La puissance du serpent a largement contribué à populariser en Occident l'image d'un axe corporel ponctué de chakras. Pourtant, l'ouvrage invite à considérer ces centres non comme des organes physiques universels, mais comme les éléments d'une cartographie subtile appartenant à des traditions tantriques déterminées. Les chakras sont associés à des emplacements, à des formes symboliques, à des lettres, à des mantras, à des divinités et à des fonctions cosmologiques. Leur rôle ne se réduit donc pas à une succession de zones émotionnelles ou psychologiques. L'ascension de la Kundalini s'effectue dans le canal central, souvent nommé Sushumna, et s'inscrit dans un travail rituel et contemplatif plus vaste. Cette représentation organise une progression depuis les conditionnements de l'existence manifestée jusqu'à la conscience suprême. Elle donne au corps une dignité particulière, il n'est pas seulement un obstacle à dépasser, mais le support où peut s'opérer la réalisation. Toutefois, le livre ne justifie pas l'idée qu'une carte unique des chakras conviendrait à toutes les écoles indiennes, ni qu'elle puisse être appliquée indépendamment de son contexte. Le lecteur y gagne surtout une compréhension de la logique symbolique du corps tantrique et des limites des schémas simplifiés, aujourd'hui très diffusés. Quatrièmement, mantra. Rituel et transmission comme condition de la voie tantrique. Avalon présente le tantrisme comme une tradition dans laquelle la connaissance ne relève pas seulement de la spéculation intellectuelle. Les mantras, les visualisations. Les gestes rituels, les formes de culte et les procédures d'initiation participent à une discipline destinée à transformer la relation du pratiquant au corps, à la parole et à la conscience. Le mantra y possède une fonction qui dépasse la répétition d'un mot porteur de bien-être. Il est compris comme une forme sonore de la puissance divine, employée selon des règles de prononciation, de consécration et de transmission. Cette place du rite rend la lecture parfois difficile pour un public habitué à opposer spiritualité intérieure et pratique cérémonielle. Dans l'univers tantrique décrit par le livre, le rite peut précisément devenir un moyen de rendre présente la réalité métaphysique qu'il exprime. La transmission par un maître authentique est également centrale. Elle ne représente pas seulement une autorité sociale, mais la garantie d'un cadre interprétatif, éthique et technique. Les avertissements associés aux pratiques de Kundalini doivent ainsi être lus comme une mise en garde contre l'extraction de procédés isolés hors de leur tradition. L'ouvrage est particulièrement éclairant lorsqu'il montre que doctrine, langage sacré et discipline initiatique forment un ensemble difficilement séparable. En dernier lieu, un texte fondateur, mais à lire avec distance historique. L'importance de la puissance du serpent tient à son rôle dans la transmission occidentale des idées de Kundalini et de chakra, en donnant accès à des matériaux sanscrits et en défendant leur cohérence. Avalon a offert une alternative aux descriptions hostiles ou caricaturales du tantrisme qui circulaient à son époque. Son travail a influencé durablement les études religieuses, l'ésotérisme moderne et de nombreuses représentations du yoga. Cette influence impose aussi une lecture critique. Le livre ne constitue pas une synthèse de tous les tantrismes indiens, qui regroupent des courants, des lignées et des pratiques très divers. Son intérêt porte principalement sur une configuration shakta et sur des textes particuliers dont la portée ne doit pas être étendue sans précaution à l'ensemble de l'hindouisme. Par ailleurs, les catégories employées par un auteur occidental du début du XXe siècle reflètent un contexte intellectuel précis, même lorsqu'elles visent à respecter les sources indiennes. Le meilleur usage du livre consiste donc à le lire à deux niveaux. Il permet d'approcher de manière dense une doctrine tantrique du corps subtil et de la puissance divine. Mais il invite également à examiner comment les savoirs religieux traversent traduction, médiation culturelle et réception occidentale. Cette double valeur historique et doctrinale explique sa place durable dans le domaine. En conclusion, la puissance du serpent s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite dépasser les représentations simplifiées du tantrisme et comprendre l'arrière-plan religieux de notions aujourd'hui omniprésentes, telles que Kundalini et Chakra. Il conviendra aux étudiants en histoire des religions, aux lecteurs intéressés par l'hindouisme et aux pratiquants de yoga désireux de situer certains vocabulaires dans leur cadre textuel et rituel. Son bénéfice principal est intellectuel, il apprend à ne pas isoler une technique, une image corporelle ou un mot sanscrit de la cosmologie qui lui donne sens. Il éclaire notamment l'articulation entre Shakti, Shiva, mantra, corps subtil et délivrance. Le livre requiert cependant une lecture attentive. Son langage peut être dense. Ces catégories appartiennent à une époque déterminée et son propos ne remplace ni l'étude de la diversité des traditions tantriques ni l'accompagnement d'une pratique initiatique. Comparé aux introductions contemporaines souvent centrées sur le bien-être ou sur une vulgarisation rapide des chakras, il se distingue par son ambition philologique et doctrinale. Comparé aux manuels pratiques, il refuse implicitement de transformer des enseignements réservés en recettes individuelles. Sa singularité réside enfin dans son statut historique, il est à la fois une source essentielle de la réception occidentale du tantrisme et un objet à interroger avec les outils. Critique actuelle, cette tension en fait une lecture durablement utile à condition d'allier curiosité, prudence et sens du contexte. Si vous souhaitez soutenir Arthur Avalon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.